Cette semaine, à Vidéo Terreur, les films d'horreur des années 70.
Vidéo Terreur est un podcast sur les films d'horreur avec deux passionnés, Pierre Turcotte et Jimmy Francoeur. Cet épisode est produit par la télé du Haut-du-Lac.
Bonjour et bienvenue à Vidéo Terreur. Cette semaine, on entre dans les années 70. Et avec Jimmy Francoeur, on va exploiter l'horreur de cette belle décennie. Salut Jimmy.
Salut Pierre, ça va?
Ça va toi?
Oui.
Les années 70, est-ce que c'est considéré comme, je sais pas, l'âge d'or des films d'horreur ou le début de quelque chose?
Bah, écoute, moi je pense que si c'est pas l'âge d'or, en tout cas on n'en est pas loin. Là. Tu sais, je pense que c'est une période qui est quand même super importante. Puis je trouve que c'est à partir de là qu'il y a quelque chose qui va devenir marquant. Là. Tu sais, par exemple, si on regarde l'horreur des années 50-60, il y a eu des trucs super. Mais tu sais, c'est un style de cinéma, même de façon générale, qui est assez coincé. Là. Il y a quelque chose d'assez, anglais. Là. Dans les années 70, je trouve que là, on commence à... Ben, en fait, comme la société aussi américaine, puis de l'époque, il y a quelque chose un peu qui change. Là,
décoincé, puis en même temps, c'est avant la grande censure internationale, fait qu'on peut se permettre plus de choses, j'ai l'impression.
Oui, beaucoup. Là, puis même, ça suit un peu ce qui se passe dans la société. La famille nucléaire change, les valeurs religieuses commencent à être questionnées. Fait que, tu sais, c'est une époque où je dirais, on voit aussi dans le cinéma cette espèce d'expression un peu plus intense qui est permise. Puis je pense, moi, c'est peut-être un terme, là, tu sais, quelque chose d'un peu plus, dans l'horreur, en fait, dans les années 70, quelque chose d'un peu plus intense, féroce. Tu sais, on ose, tu sais, si on regarde genre, la décennie précédente, on ose beaucoup, là. C'est pas juste comme une fois de plus, deux fois, là, tu sais, c'est majeur, là. Tu sais, on vient avec des films, mettons... Même si sur le plan visuel, il n'y a pas tant nécessairement de trucs là, qu'on voit, mais tu sais, Texas Chainsaw Massacre, ça peut pas être un film des années 60, des années 50.
Non. On est ailleurs.
Mais c'est très années 70. Là.
Ouais. Puis il y a un contexte aussi de l'époque. Là, il y a beaucoup de grandes crises internationales. On sort du mouvement Peace and Love, la fin de la guerre du Vietnam. Donc ça a des influences aussi, non?
Ben, tu parles de la guerre du Vietnam. Moi, je pense que c'est un incontournable parce qu'on dit souvent qu'entre autres, la guerre du Vietnam s'est perdue par l'image. T'sais, ce qu'il faut se rappeler aussi, les anciennes guerres, on a beaucoup, Deuxième Guerre mondiale, des photos quand même, je dirais, ou des images plutôt élogieuses. T'sais, là, le public américain a accès aussi à l'envers du décor. Là,
Ouais.
Là, on voit à la télé des bombes qui tombent, du napalm, des gens
qui... On réalise qu'on n'est plus nécessairement les héros du monde, là, qu'on peut aussi être les méchants à quelque part.
Puis ça aussi, ça va, je pense, avoir un impact dans le cinéma des années 70, qui est peut-être plus nuancé. On parlait des films à un moment donné de John Wayne, de Cowboy, où comme les bons, les méchants, il n'y a pas de nuance. Puis là, la société, je pense, commence à se questionner aussi, américaine, s'auto-questionner, puis réaliser aussi que il n'y a pas nécessairement des bons, des méchants, puis que même les bons peuvent être questionnables aussi dans leurs agissements. Fait que je trouve que c'est la plateforme sur laquelle un peu le cinéma des années 70 va se bâtir. Là.
On parle aussi un peu de l'effondrement des piliers de l'horreur. Ce serait, tu parles quoi, du Dracula, de ces choses-là?
Ben effectivement, si on regarde par exemple
Universal,
puis entre autres, aussi Amicus. Mais on va parler de la Hammer, par exemple. Le studio Hammer, en Angleterre, c'est le studio qui fait de l'horreur. Ils sont pas nés là-dedans, mais ils se sont bâtis sur l'horreur. Dans les années 50-60, c'est vraiment un studio qui est dominant, là. À partir des années 70, on voit aussi qu'il y a comme un essoufflement. Là. On essaie de remettre là, Dracula, par exemple, au goût du jour avec comme Dracula AD 1972, Satanic Rites of Dracula. Puis,
où on Dracula.
Va oui, tout à fait. On va essayer de rendre Dracula, je dirais, dans un contexte moderne. Puis pour la Hammer, ça fera pas. Là. Le succès il est loin d'être au rendez-vous. Puis. La Hammer va cesser ses activités en 76 là, avec le dernier film qu'ils ont fait To the Devil Daughter. Puis même la société Amicus, qui était un peu leur concurrent, là, on fera peut-être une émission à un moment donné là-dessus, qui s'est beaucoup spécialisée dans les anthologies comme Tales from the Crypt puis Vault of Horror, Asylum et compagnie. Et aussi, eux autres vont cesser leurs activités dans les années 70. Fait qu'on voit que les représentants de l'horreur qu'on pourrait appeler gothique traditionnelle réussissent pas à relever le défi parce que, par exemple, on vient à Dracula, on a un film de Dracula versus, mettons, Texas Chainsaw Massacre, Night of the Living Dead. Puis on se rend compte que, tu sais, cette horreur-là, les gens ne se retrouvent pas là-dedans. Ils trouvent que ça fait un peu rétro, vieillot. Puis
la nouvelle... Mais c'est parce que c'est déconnecté, c'est souvent dans d'autres époques, tandis que là, les gens ont le goût d'avoir peur de ce qu'ils vivent. Là.
Tout à fait, puis d'être plus dans le contemporain. Puis je pense que les années 70, c'est l'émergence de l'horreur contemporaine. Tu sais, avant, encore une fois, tu sais, la Hammer, on fait des films extraordinaires, là, mais tu sais, on a des calèches, des châteaux. Je sais pas pour toi, là, mais moi, j'étais pas très confronté à la vie de château puis de calèche quand j'étais plus jeune. Mmh, alors que Night of the Living Dead, par exemple, tu sais, c'est notre quotidien, là, c'est la petite ville. Fait que je pense que les années 70, c'est vraiment là, c'est le passage d'un horreur plus dans le quotidien, là. Puis plus féroce aussi, là.
Puis c'est le début aussi des films où on va investir plus de budget dans les films d'horreur, ça se peut-tu?
Ben oui, tout à fait. Tu sais, je pense que un des grands exemples, c'est Exorcist. Là. Exorcist, c'est un film qui va avoir été extrêmement important au Jazz. C'est un des films les plus payants de l'histoire du cinéma. Puis là, encore une fois, à partir du moment où les studios commencent à oser aussi avoir des méga-productions qui sont de l'horreur, parce qu'à une certaine époque, l'horreur, c'est cantonné à la série B. C'est des films qu'on passe en programme double l'après-midi. Pis des films comme Exorcist qui vont avoir une influence majeure puis qui vont être extrêmement payants. Mais là, les studios aussi en viennent à se dire « Ouais, ben peut-être que finalement, même si c'est peut-être pas le créneau qu'on préfère, il y a quelque chose d'extrêmement rentable. » Fait que de façon générale, même dans la science-fiction, je peux prendre un exemple, Star Wars ou des trucs comme ça, on commence à se rendre compte que la science-fiction aussi, là, on était dans la série B. Là.
Oui, oui.
J'ai rien contre Star Trek, là, mais la première série, je veux dire, on... Oui. Puis là, ben encore une fois, les studios se rendent compte qu'il y a un créneau que si on investit suffisamment,
c'est beaucoup basé sur les effets.
Exactement.
Ça prend du budget.
Ça prend du budget, tu sais. Puis je pense que, tu sais, entre autres, Exorcist va être majeur pour ça parce que on va se rendre compte que si on investit plus d'argent, le retour est aussi important. Ouais. Fait que ça effectivement, là, ça, dans les années 70, on commence à avoir une idée que... Puis pas juste dans l'horreur, en fait, là. Tu sais, que les studios commencent à réaliser que si on investit plus, il y a un retour aussi plus important. Là. Fait que c'est le début des méga-productions aussi. Là.
Puis c'est le début des remakes aussi. On va commencer à faire des remakes de certains films.
Tranquillement. Je dirais qu'à l'époque, c'était encore un phénomène qui est comme en fait qui émerge. Là, comme par exemple, on prenait un exemple, mettons, voyons King Kong.
King Kong.
1933, ouais. Je pense qu'on va le refaire en 76. Puis ça, c'était intéressant parce que là, on parlait de remakes à un moment donné. Je pense que c'est encore des remakes qui se défendent. Là. On parle des années 30 aux années 70. On veut remettre ça au goût du jour. Je pense que ça se défend. Tu sais, Invasion of the Body Snatcher, les années 50, les années 70. Mais tu sais, encore une fois, ça parle aussi du goût de raconter des histoires qui ont été quand même classiques. Mais aussi, on commence à voir la crise du cinéma américaine où on a besoin beaucoup de produire de films pour satisfaire la demande et qu'on ne réussit pas. Donc, on commence à se dire « Ouais, peut-être qu'on devrait commencer à refaire des films qui datent. » Mais c'est une tendance, à un moment donné, où je pense qu'on va l'échapper. Là. Mais là, ça émerge à ce moment-là. Là.
Ouais, c'est clair. Dans l'horreur, dans les années 70, c'est quoi les styles qu'on retrouve qui sont majeurs ou qui ressortent peut-être du lot?
Ben, tu sais, dans l'horreur, il y a des trucs là, qu'on voit réapparaître, là, en fait, là, comme les films d'animaux. Là, mettons, par exemple, comme Jaws, on va avoir Piranha.
Piranha, ouais.
Sauf que... T'sais, on voit encore, je parlais de quand on va essayer de rendre ça un peu plus contemporain. T'sais, si tu te rappelles, bon, dans les années 50, on a des films d'araignées géantes et compagnie, mais c'est toujours un peu de la science-fiction.
Ouais.
Alors que là, on essaie de rendre les films d'animaux un peu plus, puis il y en a eu plusieurs, comme des trucs du genre, t'sais, où on va essayer de rendre ça un peu plus réaliste, crédible. Je pense qu'à une certaine époque, l'horreur, on la veut aussi déconnectée un peu loin. Puis là, on cherche de la rapprocher aussi beaucoup. Là.
Parce qu'on a l'impression que ça va probablement faire plus peur aux gens si c'est plus connecté à leur réalité.
Exactement. Là. Fait que ça, c'est un créneau qu'on a vu aussi apparaître. Là.
Là, ce qu'on avait le goût de faire, c'est de passer les années 70 puis parler de nos coups de cœur. Qu'est-ce qu'on a aimé? Quel film qu'il faudrait voir? Puis pourquoi? Fait que je vais te lancer avec en 1970, ça serait quoi ton choix de film pour 1970?
Shockwave.
Hey, on a le même choix, c'est bizarre.
Ouais, mais... parce qu'on s'était dit en fait qu'on se dirait pas nos choix.
Ouais.
Ben, Shockwave, là, tu me diras t'as raison, mais moi, personnellement, Shockwave, bon, outre que c'est un excellent film, c'est quand même intéressant parce que Peter Cushing joue là-dedans, qui est un pilier justement de la Hammer. Fait que là, on voit aussi comme. Les piliers qui réussissent comme acteurs, en tout cas au moins, à se réinventer. Shockwave, bon, c'est une histoire de zombies nazis. Mais moi, je te dirais, où je l'ai beaucoup inclus, c'est au niveau du look, de l'esthétique. T'sais, je trouve qu'on a une esthétique là, qui va nous un peu... quelque chose d'un peu cru là, qu'on va retrouver dans Texas Chainsaw Massacre. Il y a quelque chose qu'on je trouve qui fait 70 dans le style. C'est même les plans, là, il fait chaud, c'est brutal. Il y a quelque chose d'intense dans ce film-là. Je trouve que pour moi, en tout cas, c'est pour ça que je l'ai mis à ce niveau-là. Toi, c'est ta raison?
Ben, moi, je trouve que je suis un grand fan de Romero, mais je trouve que Shockwave, c'est le réel passage entre Night of the Living Dead et Dawn of the Dead, justement pour le grain, pour l'histoire, la manière de tourner. Je sais pas, je trouve que c'est dans les meilleurs films de zombies en fait qui ont été faits. Si j'exclus les Romero, là, mais ouais.
Moins connu, hein? C'est un peu troublant. Là.
Moins connu, mais c'est italien, je pense.
Non, c'est américain.
C'est américain.
Oui, oui, oui.
OK.
Mais c'est ça, il n'y a comme pas l'excuse d'être du film étranger.
Ben, peut-être qu'il a moins été relancé ou qu'il a moins marqué les gens, je sais pas.
Peut-être moins disponible à une certaine époque aussi, mais là, actuellement, il est disponible. Si on le connaît pas, je pense que c'est un film à voir.
Oui, non, mais c'est intéressant. Puis on a parlé souvent, tu sais, les zombies nazis, je pense que c'est... Si t'en as rien qu'un à voir...
Oh, il faut que tu commences par lui, clairement.
D'accord. OK, ben je t'amène en 1971. Je serais bien surpris que tu aies le même choix que moi.
J'ai Clockwork Orange, Les Oranges Mécaniques.
Chef-d'œuvre, là.
Oui, tout à fait. T'sais, bon, en fait, mon choix, c'était beaucoup au niveau de l'influence. Je pense que c'est quand même un film. Bon, Kubrick, esthétiquement, c'est génial. Bon, on ne peut rien enlever. Mais tu sais, qu'il y a quand même, je pense aussi, c'est les années 70 en termes de. Il y a une violence qui est importante, qui est intense. Puis c'est comme une barrière. Là, Kubrick, je pense qu'il a dépassé quelque chose. Il y a le commentaire social aussi. Puis je pense que ça fait partie aussi des années 70 où on va avoir de l'horreur, comme je dis aussi, avec un commentaire social, là, comme on parlait de films d'animaux tantôt. Il y a des préoccupations écologiques. T'sais, on fait pas juste faire des films, encore une fois, pour les enfants l'après-midi ou les jeunes l'après-midi. Fait que tu sais, Les Oranges Mécaniques, je trouve qu'il y a aussi cette commentaire social qui commence à émerger.
Puis au niveau aussi, c'est que c'est un grand réalisateur. Il y a un des grands noms de l'horreur qu'on connaît, je pense à Roger Corman. Pas des génies du cinéma, c'est juste des gens qui en ont fait beaucoup à quelque part. Ouais. Tandis que là, on tombe sur un grand réalisateur.
Tout à fait. Oui, ben ça, c'est intéressant parce que tu as raison là-dessus. En fait, il amène un peu, je dirais, une crédibilité à l'horreur. Là.
Oui. Puis il le fait à sa manière.
Toi, ton film, c'est?
Equinox. Écoute,
okay. Là, le monde va pas dire, avoir vu.
Qu'est-ce que c'est ça, hein?
J'avoue que je l'avais même pas vu.
Donc. Ah non, mais il faut, c'est des gens qui s'en vont, qui sont comme perdus sur une île déserte et que là, qui sont comme, ils se ramassent sur une île où il y a des gros monstres géants en plasticine qui se battent. Alors, moi, ça m'a fasciné. Je l'ai encore en VHS puis je l'écoute avec plaisir. C'est un des rares films où l'animation de ces créatures-là n'est pas faite par Ray Harryhausen. Je sais pas qui l'a faite, mais où on a un niveau semblable. Le stop motion est efficace. Il marche bien. Bon, c'est pas un grand film, mais moi, je me rappelle, moi, ces films-là, ça me fascinait. Puis encore aujourd'hui, quand je l'écoute, j'ai un malin plaisir à voir ça. Puis où l'être humain sert à rien. Tu sais, on voit beaucoup ça, entre autres, dans les films de Godzilla. Mm-hmm. L'être humain sert à définir ce qu'est Godzilla. C'est l'armée, les scientifiques. Mais on a ça là-dedans. Ils sont perdus sur l'île, mais au bout du compte, on s'en fout. C'est juste un prétexte pour aller voir qu'est-ce qui se passe parce que les monstres se battent entre eux. Fait que c'est un film... pas très bon, mais moi qui m'a marqué, que je dirais, si vous êtes fan de films de monstres, go, tentez le coup avec Equinox.
Ah, c'est bon.
OK, on s'en va en 1972. Je te laisse commencer parce que tes choix sont toujours plus meilleurs que les miens.
Je sais pas, mais moi, je te lègue Blackula.
Oh ouais.
En fait, parce que je trouve que c'est un produit justement de l'époque des années 70. On est dans les droits des revendications des Noirs, tout ça.
Les droits civils aux États-Unis.
Droits civils. Puis, tu sais, je trouve que c'est intéressant l'idée, tu sais, de se dire on va s'approprier un mythe puis on va le mettre comme à notre main. Puis, tu sais, même, bon, on pourrait dire, est-ce que c'est juste Dracula noir? Mais en même temps, je trouve qu'ils se sont réappropriés le mythe, par exemple, entre autres, tu sais, le mythe de l'esclavage, parce qu'en fait, on va amener aussi Dracula comme étant, ou Blackula, là, comme étant l'esclave aussi de ses pulsions. Fait que, tu sais, je trouve qu'on a fait un beau mix, tu sais, de mythologie, puis de s'approprier aussi quelque chose. Je trouve qu'encore une fois, tu sais, je pense que ça prend un film comme ça dans les années 70.
Je pense que c'est important d'en parler parce que, tu sais, quand le film Black Panther de Marvel est sorti, on a comme eu une vague de enfin du cinéma avec des acteurs noirs. Mais non, il y a eu ça avant. On oublie notre passé. On pense à Schaff, on pense à Blackula. Mm-hmm. Donc, ça existe depuis plus longtemps qu'on pense. Oui. C'est peut-être qu'on les a oubliés ou qu'on ne les a pas remis au goût du jour. Mais enfin, on avait justement ces héros, ces films faits pour les afro-descendants. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'important dans ce film-là.
Oui, il y a le ce qu'on a appelé le Blaxploitation. Il y a plein de films, là, je veux dire, encore une fois, des trucs vraiment super. Même, il y a eu une suite, là, Scream, Blackula, Scream. Non, c'est à voir. Toi, t'es allé où?
Moi, je suis allé, écoute, tu ne seras pas surpris, moi, je suis allé dans The Blob. Quel film fantastique à propos de rien. Je trouve que c'est une icône des films de série B. Pas des films de série B, mais on en parlera probablement de qu'est-ce qu'on aime de ces mauvais films-là. Mais moi, ce que j'aime de ça, c'est qu'on part d'une prémisse complètement débile, mais on réussit à créer une espèce de... Voyons, la scène dans le cinéma où là, t'es en train d'écouter un film, tu sais, on c'est Ringu 30 ans avant, là, dans le sens où on est en train d'écouter un film, ça se passe, là, je sais pas, il y a quelque chose d'avoir peur de du jello, là, tu sais, je veux dire, c'est ça, là, il y a rien là-dedans, sauf il y a... C'est ça, c'est à revoir, en fait, pour voir aussi, parce qu'on a beaucoup dans l'esthétique des années 50, moi, je trouve, mais on va remettre ça avec cette espèce de jello tueur-là. Je sais pas, moi, j'ai toujours apprécié ces films-là, où on va partir d'une idée débile, là, puis on va l'assumer. Je pense que c'est là aussi où ça marche. Quand on n'assume pas ça, là, on tombe dans le série B, mais une fois qu'on l'assume, tu fais comme... est-ce que ce serait possible?
Comme une franchise d'honnêteté, là.
Ouais, c'est ça. 1973, grande année. Je suis certain que tu vas avoir pris le choix que j'aurais pris, donc je vais en prendre un
Exorcisme.
Autre. Exorcisme? Ben oui.
Ben, en fait, tu sais, je te dirais, c'est pas un film nécessairement que je vais réécouter chroniquement, mais tu sais, c'est un film important. Tu sais, ça a influencé le cinéma, les studios, le rapport
puis
à l'horreur.
Quand tu le réécoutes, il est encore extrêmement efficace.
Oh, il est punché, là. Puis je dirais, en dépit des croyances religieuses, je veux dire, c'est un film qui reste fort. C'est un film marquant. Dans 50 ans, on va encore parler d'Exorcisme. Fait que c'était un incontournable.
Et aussi, c'était peut-être la première fois où on avait un enfant qui jouait quelque chose d'aussi dramatique, un réalisme là, à glacer le sang.
Puis encore aujourd'hui, il y a des scènes là-dedans là, que tu te dis, je sais pas si les grands studios se lanceraient nécessairement comme ça. Les scènes de vomi, le crucifix. Il y a des scènes intenses. Là. Fait que oui, ça, c'est un incontournable. Toi, t'es allé où?
Je suis allé avec un film qui n'était pas sur la liste, que j'aime énormément. C'est Schlock, le tueur à la banane, de John Landis, parce que c'est une parodie des films d'horreur. On va rire de ça. On va aller chercher les clichés à travers tout ça. Et puis, ça va être aussi la première fois où John Landis va travailler avec Rick Baker, qui fait tous les effets spéciaux avec du poil, qui va nous amener à Loup-garou de Londres, puis même à ce que John Landis réalise le vidéo trailer de Michael Jackson. Exactement. Fait que, tu sais, c'est le début de quelque chose. Et quand t'écoutes ça, c'est que drôle. Il n'y a rien de sérieux. C'est complètement... c'est zéro crédible. Mais on rit de l'horreur. Et dans cette parodie-là, moi, c'est un film que je trouve toujours drôle à regarder parce que c'est n'importe quoi. En fait, c'est plus un film à sketch qu'un film, là. Mais on va ailleurs avec des répliques célèbres là, et très, 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 très drôles.
Écoute, en 74, pour ma part, je savais où probablement tu irais, fait que je suis allé ailleurs avec Black Christmas.
Oui, Black Christmas.
Parce qu'en fait, ça va planter, je pense, la graine là, du slasher pour les années 80. Mais c'est quand même un film là, qui a une structure qui va être importante.
C'est canadien, ça, Black Christmas? Oui,
tout à fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Puis je pense qu'encore une fois, c'est là qu'on va récupérer le giallo italien puis qu'on va l'américaniser ou en tout cas le... Fait que c'est un film qui va devenir comme un incontournable pour le slasher. Mais c'est principalement pour sa valeur, je dirais, historique que je l'ai pris. Là. J'imagine que tu es allé avec...
Texas Chainsaw Massacre. Écoute, je ne m'étendrai pas, j'en ai parlé plein de fois, mais ce film-là est encore tellement troublant quand tu l'écoutes aujourd'hui. Genre, écoute, la scène du repas. Puis en plus, c'était fait un an après que l'histoire qui a été inspirée, l'histoire d'Ed Gein, qui est un vrai tueur en série, est sortie. Il y a quelque chose de très, très, très malaisant dans le film, de malsain. Puis tu l'écoutes, tu n'as pas nécessairement peur, mais tu files pas. Puis moi, je trouve que c'est une grande force du film. La scène du repas, là, c'est angoissant à mourir.
Puis, tu sais, moi, je trouve qu'une des forces de ce film-là, c'est. En tout cas, je sais pas si c'est juste moi qui ça donne cet effet-là, là, mais on sent qu'il fait chaud. Tu sais, les plans du sol, de soleil, la chaleur, c'est comme. Il y a quelque chose de sensitif, presque, dans ce film-là, qui est rare. Tu sais, c'est rare les films qui mettent l'impression que. Il y a une ambiance qui dépasse même, je dirais encore une
la
fois.
La maladie mentale aussi, la famille, là, ils sont pas sains. Tu sais, je veux dire, là, c'est troublant. Fait que, ouais, non, mais là, non. Écoutez, il faut l'écouter au moins une fois dans sa vie.
Oh, oui, clairement. Là.
1975, écoute, je vais te devancer parce que moi, il y en avait un que je pouvais pas parler, mais Jazz, là. Jazz où, pour la première fois, on va utiliser la musique, mais la musique va faire partie de l'histoire parce qu'on va jouer avec le spectateur. Tu sais, la première fois, on entend la musique, le requin arrive et on va faire ça une couple de fois, puis après ça on va se mettre avec jouer avec les codes où là on va entendre la musique pas de requin, il a mené pas de musique, un requin, fait que là tu sais on va jouer avec les codes, ouais. Et ça c'est brillant, mais c'est Spielberg, un grand film là.
Puis encore une fois, pour le niveau de l'histoire du cinéma, ça devient important parce que ça a été un des films les plus payants de l'histoire. Puis encore une fois, ben là, ça redonne aussi une crédibilité justement à l'horreur là. Moi j'étais allé avec Deep Red ou Profondo Rosso de Dario Argento.
Ah ouais. Qui est un très, très grand film. Ouais.
Ah! Puis en fait, moi, je l'ai pris comme en terme. Tu sais, mon critère, c'est un peu l'influence. C'est un film qui n'était pas nécessairement tant influent au niveau du public ou de l'histoire, tu sais, disons, du milieu du cinéma, mais au niveau des réalisateurs. Tu sais, il y a beaucoup de réalisateurs que ça va les choquer, mais positivement. Tu sais, Carpenter, entre autres, va être vraiment comme impressionné. Là. Il y a beaucoup de réalisateurs que Profondo Rosso vont vraiment influencer ou les choix esthétiques. Fait que c'est un film qui est marquant, je dirais, aussi du point de vue des créateurs eux-mêmes. Là. Ouais. Fait qu'un incontournable.
1976, tu y vas avec quoi?
Écoute, je suis allé avec Omen. J'avais hésité avec Assault on Precinct 13, qui était le premier film là, de Carpenter. Mais Omen, écoute, personnellement, c'est pas un film là, que j'apprécie nécessairement tant que ça. Mais encore une fois, c'est un peu après l'exorciste, la tentative là, de continuer un peu sur le rythme de Satan qui se manifeste, puis que ça va être une mode extrêmement importante, même en littérature, là, dans les années 70. Fait que je l'ai pris pour cette raison-là, mais je te dirais, c'est pas nécessairement un film là, que je défends tant que ça, là, toi.
Moi, je suis allé King Kong parce que, écoute, j'ai vu ça au cinéma, je capotais. Moi, les gros monstres, ça me faisait. Écoute, je pleurais à la fin quand ils mouraient. Oui. Je veux dire, ça venait me chercher à tous les niveaux, là. La scène de la bataille avec le serpent, encore là, les animations stop-motion. Écoute, moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Maintenant, quand je l'ai revu, j'étais un peu déçu, mais le souvenir que j'en garde est majeur. Le
dernier souvenir que j'en ai, moi, c'est de pleurer dans le salon quand King Kong meurt à la fin. Oui, j'entends le battement du cœur.
Clairement. 1977.
Suspiria.
Suspiria. Ben oui, ça, je savais que t'allais prendre ça.
Parce que, bon, c'est sûr qu'en tant que fan d'Argento, mais c'est un film aussi, bon, sur le plan esthétique, qui va être vraiment, là, je dirais, presque inégalé.
Ouais.
Mais on tombe aussi dans une violence là, visuelle, là, je dirais, qui était aussi un peu inégalée. Fait que c'est un film qui va, même au niveau de la musique, tu sais, tous les repères, je dirais, vont être un peu ébranlés après Suspiria, là.
Ouais, ça aurait été mon choix aussi, là. C'est vraiment un grand film. Moi, c'est un moins grand, mais un film que j'aime le malaise à l'intérieur encore, c'est The Hill Have Eyes.
Mm.
Parce que, je sais pas, tu regardes ça, puis tu fais comme, non, j'ai pas le goût de le rencontrer, ce monsieur-là. Mm. Là, tu sais, j'aime pas. Ça, moi, quand j'ai ce feeling-là, souvent, j'apprécie le film, là, parce que.
Mais tu sais, tu parlais de Texas, Chainsaw Massacre. On est dans la. Tu sais, à mon avis, c'est le fils légitime ben,
oui.
Là, de ça. Là.
Oh, oui, vraiment, l'ambiance, le grain, ouais. 1978.
Halloween.
Ben oui, je suis ça. Grand fan de Carpenter que tu es.
Oui, puis même au niveau, je dirais, tu sais, Halloween, c'est ce qui va lancer. En fait, justement, on est sur la fin des années 70. C'est ce qui va lancer la folie du slasher dans les années 80. Tu sais, le tueur avec un masque. Là, puis
l'utilisation de la musique.
Fait que c'est un film, je dirais que, tu sais, probablement qu'on serait arrivé au slasher dans les années 80 de toute façon, mais peut-être pas aussi vite puis pas aussi intensément. Là. De ton côté?
Ah ben là, moi, c'est un autre grand classique, Dawn of the Dead, de Romero. Ce film-là, j'en ai parlé amplement, mais je peux pas passer à côté. Écoute, j'ai des souvenirs, la peur, l'angoisse du zombie, de la meute, de la fin du monde, en fait. T'sais. Puis on le voit un peu, tu sais, avec le COVID, là, c'est niaiseux, là, mais ouais. Tu sais, quand ça a commencé de faire attends, une épidémie, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est cette angoisse-là, ouais. En fait, qu'on retrouve là-dedans. Puis ben, des scènes mythiques.
Non,
là.
Mais écoute, c'est un.
Puis l'utilisation de la musique aussi dans ce film-là, qui est très, très bonne. Vraiment, vraiment, moi, un de mes films préférés, là. 1979, là, je pense qu'on...
On est à la même place, j'imagine.
Alien. On va le dire en même temps, mais écoute, la science-fiction d'horreur, moi, je suis un de mes genres favoris. Et ce film-là vieillit tellement bien.
Ah.
On a créé de la science-fiction avec des... Tu le réécoutes aujourd'hui,
ah,
l'univers science-fiction, le vaisseau spatial, etc., ça, c'est encore hyper, hyper pertinent.
Oh, oui, tout à fait. La seule chose qui m'a, tu sais, je te dirais, bon, je le bémol que je mets Alien, c'est le film comme tel, on touche pas à ça, c'est incroyable. Sauf qu'on n'a pas eu, tu sais, étrangement, je trouve, une influence après ça si grande, parce qu'on a eu, bon, d'autres Aliens.
Ouais.
Mais tu sais, comparativement, je vais prendre un exemple tantôt, je parlais de Halloween, qui va faire une vague d'imitation puis de, tu sais, Alien, on a moins eu cette espèce de vague-là, tu sais, on n'en a pas eu à des tonnes et des tonnes, probablement aussi parce que la barre était aussi extrêmement haute.
Et haute, puis ce que j'aime de la franchise Alien, c'est que chacun des quatre films, là, je prends les quatre films, pas ce qui a été fait avec Predator, tout ça, là, bon, on s'entend, est mené de main de maître par quatre grands réalisateurs, ouais, qui nous amènent dans, dans le même univers, mais avec une manière complètement différente. Ouais. C'est vraiment
particulier. Ça, c'est un point intéressant, parce qu'en fait, souvent, c'est plate à dire, mais quand on fait des suites, souvent, on va diluer. T'sais, les studios ont tendance à faire, ben, si j'investis 50% de moins, peut-être que la publicité du premier va me rapporter autant. Mais on a réussi à faire quatre produits, je dirais, je pense, de qualité quand même assez solide. Là.
Ben, moi, je trouve, il y a des gens qui certains vont moins aimer, mais c'est peut-être la couleur aussi qui est amenée. Oui,
c'est correct, là.
C'est même le 4, là, Jean-Pierre Jeunet, écoute, c'est le gars qui a fait Amélie Poulain, là, puis tu retrouves son esthétique dedans. Je trouve que c'est des visions de réalisateurs. Bon, ils sont pas tous égales. Je pense que le premier reste le
Oui, ça, je pense aussi, là. Mais tu sais, ils n'ont pas cherché nécessairement une uniformisation. Là, ils ont permis encore une fois que le réalisateur s'exprime. Là, ça, je pense c'est intéressant aussi. Là, mais,
le mal aimé, le 3, mais en tout cas, là, on est rendu les années 80, mais je
trouve
que
fait clairement le premier, Alien, c'est un incontournable des années 70.
Oui, ouais, vraiment, vraiment. Dans l'iconographie, etc. Hey, on a fait le tour. Merci, Jimmy. C'était très agréable de revenir dans ce passé-là. On va... J'aime ça. Merci. Merci de nous avoir proposé cette idée. J'espère que vous avez apprécié. Puis si vous avez aussi vos choix, vous pouvez nous les envoyer. Écrivez-nous, hein, à notre adresse courriel de Vidéoterreur. Et n'oubliez pas qu'on est aussi en podcast si vous voulez nous rattraper, écouter les autres émissions ou même les autres saisons. Merci d'avoir été là. Bonne semaine.
Vidéoterreur est une réalisation de Jean-François Bourbeau, animée par Pierre Turcotte et Jimmy Francoeur. La captation vidéo et sonore a été réalisée par Cynthia Dufour et Jean-François Bourbeau. Scénarisation et recherche, Jimmy Francoeur. L'ambiance sonore est une création de Jean-François Bourbeau. Coordination, Andréane Bouchard. Pour nous rejoindre, vidéoterreur@hotmail.com.
Ce balado est produit en collaboration avec la Télé-Duo du Lac.